philosophie pour leur invitation et pour avoir organisé ce samedi du livre autour de la traduction française de Théorie de l'avant-garde qui existe déjà physiquement puisque les exemplaires sont d'ores et déjà disponibles. Déjà disponibles à la vente directe. Donc je vous encourage à les regarder après les discussions. Alors, la sortie publique du livre, elle aura lieu début avril. J'aimerais également saluer un absent, qui est un absent, on va dire, de taille, dans la personne du traducteur, qui est Jean-Pierre Cometti, qui est à l'étranger, puisque ne peut pas être avec nous. Jean-Pierre Cometti a travaillé étroitement avec Peter Burger pour l'édition française, qui a été relue et supervisée par Peter Burger lui-même, qui est encore vivant, et qui est professeur honoraire de théorie littéraire et de philosophie à l'Université de Brême. Et on peut dire que l'édition française est bien qu'une édition autorisée, puisqu'elle a été supervisée par l'auteur. Alors, l'édition choisie pour la traduction est la seconde édition allemande, pas la première édition de 1974, mais la seconde de 1980, avec un texte supplémentaire, une apostille, où Burger répond aux premières critiques et aux premiers débats que son livre a suscité, dans un contexte allemand, essentiellement. Et Peter Burger a également tenu à adjoindre, spécifiquement pour l'édition française, un texte inédit, daté cette fois-ci de 2012, un texte qui s'intitule « L'héritage ambigu de l'avant-garde », qui paraît d'abord en français, avant de constituer la préface d'un livre d'essai de Peter Burger, qui sortira dans le courant de l'année 2013, chez Zurkamp, son éditeur historique, et qui s'intitule « Nach der Avant-garde », traduit par « Après l'avant-garde ». Alors j'aimerais également ajouter, avant de passer, on va dire, à la substance du livre, que la traduction de Peter Burger s'inscrit dans un projet éditorial collectif, qui est celui des éditions Questions Théoriques, de la cellule informelle qui forme les éditions Questions Théoriques. Et je dirais que les travaux de traduction que nous publions, dites-moi si vous êtes d'accord, interrompez-moi si Christophe, tu penses que je me trompe. Je dirais que les travaux de traduction que nous publions s'inscrivent dans une triple perspective qui vise à repenser, à reconcevoir nos moyens, nos formes de subjectivation et d'émancipation, qui vise également à repenser les rapports entre ce qu'on pourrait appeler d'un côté l'institué, c'est-à-dire les institutions au sens large, l'ensemble, on va dire, de ce qui assure la reproduction sociale, qui assure une certaine stabilité sémantique du monde existant, qui le confirme, ce serait l'institué d'un côté, et de l'autre côté l'instituant, qui est, je schématise, ce qui bouscule l'institué sous le coup de la critique, ce qui oblige à redéployer autrement les pôles institutionnels, ce qui pousse à déplacer, réformer, voire à révolutionner nos usages. Alors, la première perspective qui nous intéresse dans cette visée, c'est la théorie critique d'obédience marxiste, avec le livre ici présenté de Peter Burger, mais aussi, on va dire, les travaux du critique culturel américain Frederick Jameson, dont nous avons publié l'an dernier un livre majeur consacré à la littérature, et plus spécifiquement à la littérature du XIXe siècle, qui s'appelle L'inconscient politique. Et il me semble, en tout cas je vais essayer d'en parler tout à l'heure, que la pensée de Burger et celle de Jameson peuvent s'articuler d'abord sur le diagnostic critique sur la période contemporaine, qui est celle du postmodernisme ou de la post-histoire. Ensuite, parce que les analyses que consacre Burger, j'y reviendrai, au stade du développement de l'art qu'il appelle l'esthétisme ou l'art pour l'art, ce moment où l'art n'a pour seul contenu que sa propre autonomie institutionnelle et formelle, j'y reviendrai, ces analyses pourraient être éclairées par le concept jamesonien d'inconscient politique, qui est un concept qui est caractérisé justement par des dynamiques de refoulement du social et de retour fracassant du refoulé. C'est ce qui se produit dans les avant-gardes. Tout ce qui a été exclu par l'art autonome, par l'art pour l'art, revient de façon extrêmement violente dans l'art des avant-gardes. L'objet trouvé, la reproduction industrielle et mécanisée, le rebut, etc. Alors le deuxième, le deuxième pôle de publication, de traduction qui nous intéresse, c'est celle de l'esthétique dite analytique, celle qui domine dans le monde anglo-saxon depuis les années 50. Pour l'esthétique dite analytique, par opposition à l'esthétique continentale, qui est plutôt la philosophie idéaliste européenne. Alors, l'esthétique analytique nous intéresse parce qu'elle déploie un mode argumentatif spécifique, qui donne lieu parfois à des interrogations scolastiques, mais l'esthétique analytique a eu le mérite, on va dire, d'ouvrir la philosophie de l'art à l'analyse logique et à l'analyse conceptuelle, en la désensorcelant, on va dire, de ces modes phénoménologiques et idéalistes. Le troisième pôle, en tout cas, conceptuel, que nous cherchons à mettre en avant, eh bien, c'est celui de la philosophie pragmatique, la philosophie pragmatiste, au sens large, celle, par exemple, qui peut partir du second Wittgenstein, de sa réflexion sur les jeux de langage et les formes de vie, celle également qui a son origine chez John Dewey, pour sa théorie de l'enquête, et sa reconception de la démocratie et de l'art comme expérience, voire comme expérimentation. Et enfin, celle de Richard Rorty. Alors, ces trois pôles, hein, théorie critique, esthétique analytique et pragmatisme, eh bien, on ne cherche pas, dans une sorte de, dans l'entrecroisement de ces perspectives, on ne cherche pas à les fondre, à les fusionner dans un syncrétisme intellectuel qui chercherait désespérément à marier, on va dire, des pensées conceptuellement et historiquement hétérogènes. Il s'agit plutôt, en piochant en quelque sorte dans ces trois pôles, d'élaborer des outils ad hoc de redescription capables d'être secourables de façon locale ou située. Je dirais que publier à la fois Burger, Schusterman, Jameson et l'esthétique analytique, eh bien, c'est un moyen de faire on va dire, un usage radicalement instrumentaliste des théories. Et dans les familles d'outils que nous utilisons, eh bien, nous empruntons aussi bien au marxisme au pragmatisme, quand bien même ces traductions intellectuelles apparaîtraient, c'est-à-dire du point de vue de l'histoire académique de la philosophie, non convergente, non congruente. Alors à ce titre, et là je reviens ce léger détour sur le livre de Burger, la théorie de l'avant-garde, dans sa réception différée, avec 40 ans de délai, puisque le livre a été publié en 1974, nous sommes en 2013, et bien ce livre me semble constituer un outil, ou un des instruments, des plus opératoires, dans la reconception critique du rapport entre les pratiques artistiques et l'infrastructure institutionnelle, c'est-à-dire les cadres sociaux et normatifs à l'intérieur desquels l'art est produit, reçu et activé. Alors, je dirais en premier lieu que la réévaluation du concept d'avant-garde, eh bien, n'a aucun bénéfice à tirer d'une simple lamentation sur un objet originaire qui serait pur mais qui serait perdu. Voilà. Le risque que comportent des lectures, on va dire, mortuaires de l'avant-garde, même lorsqu'elles sont exemptes de tout conservatisme politique, eh bien, ce risque est sans nul doute de neutraliser l'articulation au présent, qui doit donc être au cœur d'un projet intellectuel et au cœur d'une théorie critique. Et je dirais, plutôt qu'un travail de deuil, qui serait le deuil perpétuel de l'avant-garde, eh bien, la réévaluation de son concept doit viser à clarifier le présent et à renforcer ce que John Dewey appellerait l'équipement du public, si ce n'est par une appropriation dialectique du concept d'avant-garde, comme chez Burger, du moins par une étude, on va dire, pragmatique de sa connectivité, des ressources finalement auxquelles ce concept peut encore s'aboucher aujourd'hui. Quels sont les jeux de langage au sein desquels le concept d'avant-garde peut s'inscrire et acquérir aujourd'hui des significations au-delà et différemment de sa forme première et historique. Et sous ce rapport, ce retour dialectique et critique sur l'avant-garde, eh bien, il me semble nécessaire pour sortir de plusieurs écueils qui guettent aujourd'hui, de façon conjointe, à la fois les pratiques artistiques et les discours théoriques qui les réfléchissent, qui les font fonctionner. Je les évoque ici rapidement, j'y reviendrai et on les évoquera très certainement lors de la discussion. Alors, premier écueil, première difficulté pour un discours contemporain sur l'avant-garde, ou pour les pratiques artistiques contemporaines. La première difficulté, eh bien, c'est celle produite ou causée par une théorie analytique qui serait purement descriptiviste et non critique du rapport entre art et institution. C'est le cas des théories dites institutionnelles de l'art chez un philosophe analytique contemporain qui est George Dickey, pour qui l'art se confond intégralement avec une activité instituée selon le modèle logique, voire tautologique, d'une définition circulaire. Bon, je schématise. S'il y a des spécialistes de Dickey dans la salle, peut-être réagir pour pousser cela aux questions. Je schématise. Alors, la théorie de Dickey est une théorie, on va dire, purement classificatoire, au terme de laquelle est art ce qui est reconnu par un monde de l'art, mais que Dickey lui-même laisse impensé, non décrit sociologiquement et politiquement. Et je dirais que la théorie institutionnelle, et art, ce qui est institutionnellement reconnu et validé par les agents du monde de l'art, eh bien cette théorie débouche paradoxalement sur un possible conservatisme implicite. Et ce conservatisme paradoxal, eh bien, il débouche sur un retour, ces dernières années, un retour frappant à des questions ontologiques de définition de l'art en termes de conditions nécessaires et suffisantes, ou de propriété intrinsèque. Il me semble que c'est un symptôme typique eh bien, d'une époque qui a balayé, qui a en quelque sorte oublié l'interrogation des avant-gardes, repoussé les définitions instituées de l'art, et ce retour de l'ontologie, paradoxalement, eh bien, ne fait plus de l'art un concept essentiellement contesté, en quelque sorte évacue ou vidange l'héritage problématique des avant-gardes ou la problématisation que les avant-gardes ont fait subir à toute définition de l'art en termes institutionnels. Alors, voilà pour le premier écueil, la théorie analytique, descriptiviste. Deuxième écueil, ou deuxième difficulté qui frappe l'art et ses discours. Eh bien, ces difficultés correspondent à celles des théories, on va dire, néo-hegéliennes, qui sont conjointement historicistes et essentialistes. Ces théories, qui sont peut-être plus connues en France, grâce aux travaux du philosophe Arthur Danto, qui a été traduit, il me semble, quasiment depuis le début des années 80, si je me trompe, aux éditions du Seuil, dans la collection de Gérard Genette et de Schaeffer. Donc les politiciens français se sont emparés de la théorie de Danto, ils l'ont mise en avant. Il a été le premier traduit chez les philosophes dits analytiques. Sauf que Danto, lui, conjoint à une réflexion analytique, une réflexion hegelienne, qui est à la fois historiciste et essentialiste, il parle de la mort de l'art, ou de la fin de l'art, qui serait arrivée à l'époque contemporaine, au point où l'art se confond avec sa propre philosophie et achève sa mission spéculative de médiation entre le concept et la forme sensible. Et chez Danto, eh bien, cette idée s'exprime très clairement à partir d'un événement qui tient lieu, on va dire, d'épiphanie, qui est l'exposition des simili boîtes brio de Warhol dans une galerie new-yorkaise au début des années 60. Warhol expose des simili boîtes d'éponges brio dans une galerie. Alors, pour Danto, eh bien, cela correspond à un point final ou un terme de l'art qui donne lieu ensuite à ce qu'on pourrait appeler la postmodernité. Je reconstitue très rapidement son raisonnement. Avec les boîtes brio, l'art est allé au point où il est, on va dire, indiscernable perceptuellement de simples objets ordinaires. Toutefois, c'est de l'art, c'est du Warhol. Si bien que la définition artistique n'est plus dans l'objet perceptuel, mais dans, on va dire, son essence philosophique et spirituelle. Une boîte brio fabriquée par Warhol est de l'art, parce que c'est un objet, on va dire, intentionnel, spirituel et interprétatif. Après cet événement, eh bien, on entre dans une période post-historique, où l'art a épuisé finalement son évolution, et on arrive à une période heureuse, où tout et n'importe quoi peut faire l'affaire. Alors n'importe quel objet, n'importe quoi, peut être un objet d'art, pourvu qu'il soit un objet intentionnel. Et on observe chez Danto l'éloge d'une époque qui s'appelle après la fin de l'art, où il y aurait une cohabitation de tendances artistiques multiples, et où tout s'est réduit à des signes conventionnels réifiés. Je dirais que l'art d'après la fin de l'art, chez Danto, se signale par un pluralisme heureux, finalement une réaffirmation pleine dans ce pluralisme d'une essence distincte et spirituelle de l'art, dont toute fonction critique est absente. Alors, troisième problème, qui est cette fois-ci moins philosophique que socioculturel en général. Le troisième problème tient à l'intégration très forte de l'art contemporain dans ce qu'on pourrait appeler l'appareil idéologique et discursif de l'industrie culturelle. On observe aujourd'hui une coalescence inédite dans l'art contemporain entre marketing, mode et décoration, où finalement l'art n'est qu'une simple machine comme les autres à faire émerger des tendances dans une société, pour rappeler, du design généralisé et de l'esthétisation diffuse d'à peu près tout. Ce que Yves Michaud appellerait l'art à l'état gazeux, qui se répand sur l'ensemble des champs de l'expérience, par exemple le tourisme ou le design. Et à ce titre, il me semble que la marge de manœuvre politique de l'artiste contemporain, eh bien, elle est très étroite. J'explique pourquoi. Eh bien, cette marge de manœuvre étroite, elle tient à sa situation singulière dans un complexe artiste, institution, musée, marché, qui prend la forme d'une dépendance institutionnelle, sous la forme de commandes, de subventions, de bourses, de candidatures. Voilà comment fonctionne en sorte le mode d'existence des artistes. Dépendance institutionnelle sans laquelle eh bien, ils se condamnent à une quasi-invisibilité. Et cette dépendance institutionnelle, elle va de pair avec une instrumentalisation, souvent cynique, du travail des artistes. Cette instrumentalisation, je m'explique, eh bien, les place sous une double contrainte. La logique culturelle dans laquelle l'art contemporain se situe, eh bien, place le travail des artistes sous une double contrainte. Alors, je parle des artistes, on va dire, internationaux, qui sont vraiment fortement implantés dans... qui sont des art workers fortement implantés dans un monde de l'art mondialisé. Alors, je dirais que d'une part, l'artiste travaille au sein d'une économie agressive qui repose sur des investissements somptuaires et des plus-values. Je dirais que les véritables maîtres du monde de l'art international sont les grands collectionneurs, les tycoons, les nababs, les mécènes, qui commandent la politique des musées en la finançant. Il faut voir le rapport entre François Pinault et le Centre Pompidou. Et qui, par là, voient leurs collections et leurs artistes valorisés, d'autant plus eh bien, qu'ils sont exposés dans des institutions publiques qu'eux-mêmes ils financent. Donc, ça, c'est, on va dire, une économie d'investissement. D'autre part, on demande, les institutions demandent souvent aux artistes, eh bien, de l'animation socio-culturelle au sein de rapports entièrement pacifiés, plus du tout conflictuels, qui sont souvent des rapports de dupes, ou des intérêts, on va dire malentendus sur les intérêts, entre art et institution. Et je dirais que dans ce contexte, les opérations critiques se renversent et se retournent comme un gant, en simple caution décorative, c'est le cas souvent de la critique institutionnelle, académique aujourd'hui, ou en stratégie cynique de carrière, au sein, on va dire, des appareils discursifs officiels. Voilà, la pseudo-critique devient une rente de monopole. Et tout cela tend à faire de l'art, contemporain, qui est pourtant solidaire d'une sphère publique d'expérience, un espace d'éclipse du public, comme dirait le néolibéral, comme dirait Dewey en réponse au néolibéralisme. Un espace d'éclipse du public, d'évacuation des problèmes publics, où s'expérimente avant tout eh bien, l'autonomie des dirigeants, des experts et des administrateurs, qui est une autonomie renforcée, décuplée, puisque n'obéissant à aucune espèce de justification ou de prétention à la validité. Dans le sens de l'éthique de la discussion d'Habermas. On dirait un monde de l'art dont l'autonomie est totalement décuplée, renforcée. Car c'est précisément, là je reviens à Burger, car c'est précisément la question de l'autonomie artistique, dans son caractère à la fois idéologique et contradictoire, qui est au cœur du livre de Burger. Autonomie dont le livre, Théorie de l'avant-garde, reconstitue la genèse et le développement, les attaques qu'elle subit de la part des avant-gardes, et sa radicalisation renouvelée, que je viens de décrire, à l'ère post-avant-garde. Et là, je vais m'attacher, à titre on va dire pédagogique, eh bien, à présenter et clarifier les thèses principales de Burger avant de mesurer leur portée et leur puissance de redescription. Je dirais que la force du livre, c'est qu'il comporte des thèses très fortes qui ont fait naître on va dire, des débats considérables dans le monde anglo-saxon et qui ont même donné lieu à un secteur de recherche universitaire qui s'appelle les avant-garde studies. En tout cas en Angleterre et aux États-Unis, peut-être en Allemagne, mais ça je ne sais pas. Mais ce livre, eh bien, il est assez inaperçu en France, malgré les efforts de Rainer Roschlitz et de Marc Gimnez, qui a traduit un autre livre de Burger en 1995, qui s'appelle « La prose de la modernité », qui est consacré cette fois-ci à la modernité en un sens plus large. Et « Théorie de l'avant-garde », lu avec une distance historique qui nous sépare de lui, eh bien, ce livre garde une puissance thétique, qui le rend très stimulant et falsifiable. Je dirais que ce livre a un haut degré de conscience réflexive et épistémologique, et il a aussi une grande falsifiabilité au sens de Popper. C'est-à-dire que ses thèses eh bien, provoquent le débat contradictoire et provoquent eh bien, leur testabilité au sens de Popper. Alors, comme son nom l'indique, La théorie de l'avant-garde, de Bürger, c'est une théorie, c'est-à-dire une construction conceptuelle. Si cette construction conceptuelle est nécessairement historique, cela ne fait absolument pas de son livre un livre d'histoire de l'art, ni un livre qui interpréterait des œuvres individuelles, canoniques, les Demoiselles d'Avignon, les collages cubo-futuristes, du Rodchenko, ça n'est pas le cas. Il ne fait pas d'œuvres singulières, eh bien, des modèles de compréhension de ce qu'est l'avant-garde. Et je dirais en cela que, fidèle à son objet, Bürger fait perdre à l'œuvre d'art individuelle sa position centrale, ou sa position fétichisée ou totémique. Les œuvres, eh bien, se caractérisent par leur valeur d'usage au sein d'une construction théorique, et non par leur aura individuelle ou singulière. Théorie de l'avant-garde, parce qu'il y a un effort également de réduction de son objet. Bürger évoque exclusivement les mouvements des années 1910 et 1920, et particulièrement Dada, le surréalisme et l'avant-garde russe à partir de la Révolution d'Octobre. Donc, il réduit ces objets pour construire un concept très spécifique et différencié de ce qu'est l'avant-garde. Sa méthodologie est très peu empirique. Ce qu'il donne, eh bien, ce sont des traits constructifs, en intention. Et en cela, il s'oppose à deux théoriciens qui, avant lui, eh bien, ont évoqué ou théorisé ce que pouvait être l'unité de l'avant-garde, et qui, selon lui, dilue l'avant-garde dans un concept beaucoup plus large, qui est le concept de l'art moderne ou de modernisme. Alors, le premier théoricien, qui n'est pas nommément cité dans la théorie de l'avant-garde, c'est Clément Greenberg, qui joue un rôle de repoussoir théorique. Alors Clément Greenberg, le fameux critique d'art américain, et défenseur de ce qu'on appelle le modernisme, eh bien, dans un article de 1939, intitulé « Avant-garde et kitsch », considère Courbet comme le premier peintre d'avant-garde, et confond dans tout son texte avant-gardisme et modernisme, voire avant-gardisme et esthétisme de la haute culture et de la distinction des sphères entre grand art et vie. Le modernisme, pour Greenberg, eh bien, c'est l'absolu contraire de l'avant-gardisme au sens de Bürger. Le modernisme se préserve de ce qui n'est pas l'art. Le modernisme se préserve de la contamination avec ce qui est extérieur à l'art. Il est traversé par une sorte d'anxiété de la pureté. Le deuxième théoricien, c'est Renato Poggioli, un théoricien italien qui a publié en 1962, 10 ans avant Bürger, un livre qui est également intitulé « Théorie de l'avant-garde » en 1962. Alors ça, Bürger n'en parle pas. Et Poggioli, dans ce livre, il distingue de façon très étonnante deux moments dans le développement de l'avant-garde. Une phase politique, entre 1840 et 1870, qui hérite en nature du romantisme et du socialisme utopique, et une phase esthétique, en 1910 et 1920. Alors, Bürger n'en parle pas, mais je dirais que en dissociant ainsi le politique de l'esthétique, et en faisant découler l'avant-garde du romantisme européen, Poggioli manque, à mon sens, la spécificité des mouvements d'avant-garde. Et c'est cette spécificité, l'articulation entre le politique et l'artistique, pour dire très rapidement, qui fait le cœur de l'argumentation de Bürger. Bürger cherche au contraire à ne pas dissocier les éléments artistiques des conditions politiques qui les surdéterminent dans l'histoire de la constitution, on va dire, de l'art autonome au sein de la société bourgeoise occidentale. Et cela tient, chez Bürger, dans l'articulation très ferme de 4 thèses interreliées qui correspondent peu ou prou à la construction des 4 chapitres du livre, encore que ce ne soit pas vrai pour la dernière. Mais bon, je vais ici, de façon schématique, reconstruire ou reformuler les traits intentionnels, avec un S, au sens de ce qui définit l'intention d'un concept, ces traits qui constituent l'armature du concept spécifique d'avant-garde, tel qu'il est construit par Peter Bürger dans son livre. Alors, premier trait, la théorie de l'avant-garde de Bürger est une théorie moniste, c'est-à-dire une théorie singulière, qui prend l'avant-garde comme une unité. C'est une théorie moniste et non pluraliste. Il y a une théorie et une seule pour penser l'avant-garde comme, on va dire, comme unité, ce qui a été extrêmement critiqué par la suite. Alors, pour Burger, schématiquement, l'avant-garde eh bien, constitue une réponse sous la forme d'une autocritique ou d'une critique de l'idéologie, au sens marxien, à l'autonomisation croissante de l'art, devenu un sous-système social différencié dans la société bourgeoise. L'avant-garde, donc, doit être comprise dans une saisie qu'on pourrait appeler holiste, c'est-à-dire saisie de la société comme un tout, qui a un rapport, bien évidemment, avec le processus global de modernisation, au sens de Max Weber. Processus, je le rappelle très schématiquement, qui touche la totalité sociale et la fragmente, la divise, la spécialise, très grossièrement au XVIIIe et au XIXe siècle, en différentes sphères de rationalité, soumises chacune à leur logique propre. Rationalité morale, économique, juridique et politique. Chaque, on va dire, sphère, ou chaque type de rationalité, ayant, on va dire, un rythme relativement autonome, un rythme asynchrone de développement. Et ces sphères de rationalité, donc, sont, qui forment des sous-systèmes sociaux, sont relativement autonomes les unes par rapport aux autres. Mais ce qui pose problème, c'est que dans la société bourgeoise, ça Burger le reconstitue, l'autonomie relative de l'art par rapport aux autres sous-systèmes sociaux, autonomie relative qui a une fonction, l'art accueille ce qui est exclu ou mis de côté par la rationalité instrumentale, c'est la fonction de l'art au sein de la société bourgeoise, comme dit Habermas, exprimer ou accueillir les besoins résiduels de l'homme minorés par la division du travail social, cette autonomie relative, elle est reconstruite, déguisée, fabriquée en idéologie de l'autonomie totale de l'art et du concept d'art par rapport au social. Lorsque l'autonomie de l'art par rapport aux demandes sociales d'utilisation atteint son paroxysme dans la formation d'une institution art, une institution autonome avec ses normes propres, lorsque l'art n'a plus pour objet et contenu que sa propre séparation des autres sphères de l'existence, comme dans l'art pour l'art et l'esthétisme de la fin du XIXe, apparaissent dès lors les conditions de possibilité historique de sa critique. Et donc, les mouvements d'avant-garde apparaissent comme moteurs de cette critique. L'avant-garde apparaît donc comme une autocritique nécessaire et logique de ce processus. Elle n'apparaît pas de façon contingente dans l'histoire. Elle apparaît comme un moment de rupture qui permet de rendre compte, rétrospectivement, du développement progressif de l'art comme sous-système relativement autonome dans la société bourgeoise. Et du point de vue méthodologique, Burger part du terme du développement de son objet, part du moment de crise qu'il subit pour le construire. Un peu, et ça, Christophe, je te remercie de me l'avoir fait rappeler, un peu comme, Foucault, part des situations de guerre pour construire une théorie de la gouvernementalité, ou Lourau part des expériences d'autogestion pour procéder à une analyse du capitalisme. Burger reconstruit l'histoire logique du concept d'art à partir du moment de crise que constituent les avant-gardes. Alors, quels sont les effets de cette autocritique avant-gardiste? Je dirais que l'avant-garde révèle en négatif, pourrait-on dire, l'isolationnisme social de l'institution art et l'absence d'impact des œuvres qui s'y déploient. L'avant-garde attaque cette neutralisation en révélant la fausse autonomie de l'institution art comme idéologie à démanteler. Et comme dans toute critique marxiste de l'idéologie, l'objet critiqué a toujours une double face. C'est le cas de l'autonomie artistique. Elle a une dimension qui est vraie, ou elle a un moment vrai, à savoir l'art s'émancipe historiquement de sa soumission au culte religieux ou à la commande, on passe de la valeur de culte à la valeur d'exposition, comme le dit Benjamin, donc ça c'est son moment qui est vrai. C'est le moment qui est vrai dans le concept d'autonomie, et le concept d'autonomie a, on va dire, un moment faux, qui est, ça Burger le rappelle, que ce processus d'émancipation est hypostasié, élevé comme essence intemporelle de l'art qui en masque la construction sociale. Et c'est ce double jeu de l'autonomie qui est mis à jour, démasqué par les avant-gardes historiques. Cela conduit à la deuxième thèse du livre. La critique idéologique de cet isolationnisme esthétique, doit le renverser ce dernier isolationnisme, en son contraire. L'art comme domaine séparé doit être dépassé au sens hegelien, c'est-à-dire absorbé et relevé, pourrait-on dire, dans une nouvelle pratique de la vie. C'est la question de l'implémentation de l'art dans une nouvelle praxis vitale, révolutionnaire, réorganisant l'ensemble des activités humaines. C'est aussi l'utopie politique, pourrait-on dire, d'une existence transformée en œuvre politico-artistique collective, totale, où la distinction même entre les différentes sphères de rationalité serait dépassée. C'est le moment utopique, pourrait-on dire, de dédifférenciation anti-weberienne, où les sous-systèmes divisés se rassembleraient dans une nouvelle vie. L'unification de l'art et de la vie ne peut en effet réussir, du point de vue des avant-gardes, que si elle libère le potentiel artistique de la contention, comme on dit un bas de contention, ou une stratégie de contention, de la contention institutionnelle qui en neutralise l'efficace sociale. Et, du point de vue des avant-gardes, la destruction de l'institution art autonome est donc la condition pour que art et vie soient unis. Mais cette visée est à tout le moins ambiguë, comme le souligne Burger lui-même. Cette visée peut être également interprétée comme la continuation paradoxale du projet de l'autonomie, c'est-à-dire transférer à l'ensemble du domaine de la vie les caractères de l'esthétique ou les règles de l'art. Et cette ambition, là j'extrapole, cette ambition pourrait être reconstituée logiquement en deux volets. Un premier volet qui serait un moment d'appropriation et d'annexion de ce qui est le plus extérieur à l'art autonome, à la manière, on va dire, comme je l'ai dit, d'un retour du refoulé, de l'inconscient politique, nié ou endigué par l'institution art. Et on le voit avec ce qui apparaît vers 1912-1913 dans l'art d'avant-garde. Des objets trouvés, du ready-made, du collage avec des coupures de presse, c'est-à-dire des masses médias, des manifestations sauvages qui sortent de l'espace confiné de la galerie ou du conservatoire. Ça, c'est ce qu'on observe. Deuxième volet, eh bien, ce serait un passage de l'appropriation de ce qui n'est pas l'art dans l'art à une externalisation brutale de l'art dans la vie. C'est le mouvement, on va dire, complémentaire, converse, sous la forme d'une intervention, d'une action révolutionnaire, d'une action directe dans le monde extra-esthétique. Bien entendu, c'est seulement le premier volet, l'appropriation du non-art dans l'art, qui a survécu et qui laisse des œuvres. Le deuxième volet, vous allez laisser en suspens. J'en arrive à ma troisième thèse. Les avant-gardes ont conçu, à cette fin, un tout nouveau type d'œuvres d'art, ce que Burger appelle des œuvres non-organiques. Des œuvres qui ne reposent pas sur la médiation symbolique du particulier et de l'universel, dans une forme unifiée, mais au contraire sur la suspension de toute synthèse, sur une critique de la totalité organique comme relation entre un tout et des parties. L'œuvre avant-gardiste produit certes une expérience, mais cette expérience, c'est celle d'une désunion primitive ou fondamentale. L'œuvre avant-gardiste articule de l'hétérogène, mais cet hétérogène, eh bien, elle bloque, elle interrompt toute saisie en termes de cercle herméneutique, où le tout et les parties se répondent dans un approfondissement de la signification. Elle laisse finalement l'hétérogène hétérogène, si je puis dire. Elle brise le rapport de dépendance organique entre le tout et la partie, et même la possibilité de décomposer notionnellement un tout et une partie, au profit, je l'ai dit, d'une indépendance relative ou d'une contradiction multiple entre les éléments. Et l'unité grammaticale de l'œuvre d'art d'avant-garde, c'est moins le fragment, qui peut encore renvoyer à une totalité close sur elle-même, comme dans le romantisme allemand, de l'Athénaum, c'est donc moins le fragment que l'échantillon, au sens du sample ou de l'échantillonnage. Les échantillons redisposés dans un collage, dans une construction, eh bien, exemplifient leur provenance première, qui est toujours extérieure au monde de l'art autonome. Une coupure de presse ou une étiquette de marchandise comme une bouteille d'alcool, c'est le cas des collages cubistes de Braque ou de Picasso. Et même si Burger ne le fait pas explicitement, on pourrait considérer qu'il y a trois formes critiques, paradigmatiques, d'œuvres d'art non organiques apparues avec les avant-gardes. Le ready-made, le collage cubiste, puis dadaïste, et des formes d'action publique processuelle, des manifestations qu'on pourrait dire hors limite, des performances, transponer peut-être, qui se distinguent très nettement des exécutions musicales, chorégraphiques ou théâtrales traditionnelles. Et je dirais que le point commun à ces trois formes paradigmatiques, eh bien, c'est une certaine dramatisation de l'hétérogénéité ou de l'incommensurabilité des échantillons et des contextes mobilisés. Je dirais que l'œuvre avant-gardiste produit une expérience redoublée, concentrée, intensifiée, de dispersion des éléments de l'empirie et de distorsion des médiations qui constituent l'ordre social et communicationnel. sont des expériences où eh bien, la négation de la synthèse, comme dirait Adorno, devient principe de construction. On a un nouveau type, tout à fait frappant avec les collages, de totalité dispositale qui fonctionne par effet paradoxalement désintégratif. Alors, peut-être que le fonctionnement de ces œuvres collagistes d'avant-garde eh bien, peut être distingué d'un autre fonctionnement du collage, plutôt investigatoire, mais ça, Christophe va peut-être nous parler plus tard. Alors, j'en arrive à la dernière thèse, la quatrième thèse de Bürger, qui est d'une importance capitale au regard des enjeux de la culture et de l'art du XXe siècle. Bürger diagnostique l'échec irrévocable des avant-gardes historiques. Cet échec est double. D'une part, les avant-gardes n'ont pas réussi à dépasser l'art dans la pratique de la vie, et les espoirs révolutionnaires qu'elles portaient et qu'elles appelaient de leurs vœux ont échoué. Bürger lui-même rappelle que l'écriture de son livre a été motivée par la constellation historique formée par mai 68 et les avant-gardes historiques des années 10-20. Pour Bürger, l'échec des mouvements de mai 68 à réellement transformer la vie dans le capitalisme tardif était déjà préfiguré ou encapsulé dans l'échec des avant-gardes historiques. C'est une visée contestable, on y reviendra. Donc ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, eh bien, les avant-gardes historiques ont échoué justement parce qu'elles ont réussi. Mais elles ont réussi au sein de l'institution art. L'institution art a non seulement survécu aux attaques de l'avant-garde, mais elles ont intégré comme art autonome les attaques des avant-gardes contre l'autonomie. Et dans une thèse qui est très radicale, Bürger distingue très nettement, de façon très tranchée, les avant-gardes réelles, ou originelles, dada, surréaliste, constructivisme, des années 1910-1920, il les distingue donc de ce qu'il appelle les néo-avant-gardes, qui correspond, grosso modo, à notre art contemporain depuis les années 1950. C'est une thèse quand même assez forte. Même si les intentions des néo-avant-gardes peuvent être encore avant-gardistes, eh bien, les néo-avant-gardes ne fonctionnent qu'au sein de l'institution art et font des attaques contre l'art autonome, pardon, un art autonome renouvelé qui aboutit à l'espace culturel et institutionnel qui est le nôtre. Et c'est cette distinction tranchée hein, qui va provoquer des levées de boucliers, des réponses en forme de plaidoyer ou de défense ad hoc pour les néo-avant-gardes chez des critiques et des historiens d'art américains qui sont des compagnons de route des néo-avant-gardes américaines comme Al Foster et Benjamin Bucklow qui étaient assez proches de ce qu'on appelait le minimalisme américain, de l'art conceptuel et de l'art de critique institutionnelle comme Buren, Asher ou Brouters. Alors, bien évidemment, la position de Bürger, elle est assez monolithique et elle est assez peu défendable, on va dire, dans sa grande généralité. Toutefois, elle est intéressante parce que Bürger produit une théorie critique de l'art contemporain, qui est une critique progressiste et non pas réactionnaire, comme cela a été le cas dans la fameuse querelle de l'art contemporain française dans les années 90, qui opposait d'un côté des contempteurs réactionnaires comme Jean Clerc, et de l'autre des turiféraires aveugles, où tout ce qui était art contemporain était absolument génial et révolutionnaire. Voilà, c'est par exemple de Philippe Dagen. Et on peut d'ailleurs dire, je vais terminer là-dessus, que la théorie de l'avant-garde de Bürger, finalement, est un prolongement ou une relève dans le champ de la théorie de l'attaque contre l'institution art menée par l'objet qu'il étudie, à savoir les mouvements d'avant-garde. Et je dirais que la force de cette théorie critique, je vais finir là-dessus, encore actuelle, me semble-t-il, est de pointer deux problèmes majeurs. Le premier, eh bien, c'est le rapport des pratiques artistiques actuelles à une institution art, certes différenciée et plurielle, mais dont l'autonomie globale, comme je l'ai dit, est sortie renforcée, voire décuplée. La question que l'on pourrait se poser, c'est comment et à quelles conditions un art critique post-avant-gardiste peut-il traverser, critiquer, instrumentaliser, à défaut de la dépasser, eh bien, sa nature institutionnelle. Peut-il se départir de son être entièrement institutionnel et se reconnecter à des usages pratiques extra ou trans-institutionnels? C'est une question que Christophe va poser. Y a-t-il finalement d'autres modèles de dépassement de l'art dans la vie eh bien, que celui de la fusion utopique? Par exemple, l'art peut-il produire des représentations utiles ou des outils à effet pragmatique locaux? C'est une des questions principales que l'on peut se poser. Le deuxième problème, eh bien, c'est celui du désamorçage de tout discours critique véritable dans le monde de l'art, que j'ai évoqué en parlant tout à l'heure de l'intégration quasi totale de l'art à la sphère de l'industrie culturelle et du spectacle. Je dirais que les modèles dominants dans le monde de l'art international sont ceux de l'exposition Blockbusters, c'est le cas par exemple des Monumenta à Paris, également, c'est le modèle de la valeur somptuaire qui est donnée à l'art par des capitaines d'industrie, des nababs mondialisés qui ouvrent des fondations, par exemple la fondation de François Pinault, la fondation d'oligarques russes comme Roman Abramovitch, je crois que c'est comme cela qu'on prononce, qui eh bien, réintroduit, répète ad libitum dans l'institution art les procédés et les pratiques de choc avant-gardistes, mais sous une forme fétichisée ou réifiée, en les transformant en objets d'art valorisés. Et cela a des conséquences importantes. Je termine là-dessus. À l'origine, les procédés avant-gardistes premiers avaient un privilège légitime par rapport à la critique, au discours critique, puisque les buts poursuivis étaient extérieurs à l'esthétique, au monde de l'art. Le problème de la néo-avant-garde, eh bien, c'est qu'elle veut conserver ce privilège qui la met au-dessus de la critique, tout en restant dans des finalités intra-artistiques ou intra-institutionnelles, voire dans une volonté de réussir dans l'institution art. Et on a là une sorte de court-circuit normatif où une partie grande de l'art contemporain se soustrait à la critique, et où la seule critique admise, eh bien, c'est celle d'une critique silencieuse, sans jugement, comme dirait Jean-Pierre Cometti, où le critique d'art, à proprement parler, le commissaire d'exposition, le directeur d'institution et le conseiller expert en achat d'œuvres et en valorisation de collections privées, échangent leur rôle, voire sont une seule et même personne. Bon, je vais m'arrêter là.
Bravo.
Merci, je pense que...